Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le patrimoine mondial de l'humanité est menacé. De Bamiyan à Palmyre, en passant par les mausolées de Tombouctou ou les cités gratte-ciel du Yémen, les sites archéologiques sont les témoins fragiles des civilisations passées. Leur destruction constitue une perte irrémédiable, écrit le journaliste Jean-Pierre Perrin qui, au fil du temps, a enquêté sur les sites détruits et ceux qui le seront peut-être un jour. La guerre, les bombardements, mais aussi les destructions volontaires destinées à couper les liens avec un passé que l'on rejette, sont les principales causes de ces menaces sur notre mémoire universelle. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, ancien grand reporter au journal Libération. Vous publiez aux éditions Webek ces menaces sur la mémoire de l'humanité, un livre illustré de nombreuses photos, nous y reviendrons. Pourquoi s'inquiéter particulièrement aujourd'hui de ces nombreuses destructions de sites archéologiques très anciens?
C'est l'histoire de l'humanité qui s'en va, c'est notre propre histoire aussi. Toutes ces villes, quand même, une partie d'entre elles, la plus célèbre, Palmyre, évidemment, fait partie totalement de notre histoire, de la civilisation gréco-romaine. Palmyre était à la fois une ville gréco-romaine, une ville bédouine aussi sur certains aspects, avec des influences multiples, mais c'est avant tout une ville gréco-romaine qu'on a détruit. Donc, c'est notre histoire.
Et vous commencez par les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Alors, c'est assez ancien, c'est 2001, il me semble-t-il. Pourquoi commencer par là? Est-ce que c'est le début de la fin, en quelque sorte?
Oui, et là aussi, c'est encore notre histoire, parce que c'est Alexandre le Grand qui finalement initie cette civilisation du Gandhara. Gandhara naît de la rencontre entre le bouddhisme et la statuaire grecque, entre l'art grec et une religion venue des Indes. Le Bouddha de Bamiyan a les traits d'Apollon. C'est quand même extraordinairement significatif. Alors oui, on a cru lors de la destruction des Bouddhas de Bamiyan que c'était finalement l'œuvre d'un mouvement fondamentaliste, mais une sorte d'arrière-garde, si vous voulez, une sorte de déviation de l'histoire, mais que ça n'aurait pas d'autres conséquences. C'était extrêmement dommageable pour le patrimoine de l'Afghanistan, mais que ça allait s'arrêter là. En fait, ce n'était que l'avant-garde d'un mouvement fondamentaliste beaucoup plus fort qui va culminer avec l'État islamique et les destructions du patrimoine mésopotamien, assyrien, du patrimoine évidemment de Mossoul et puis ensuite de celui de la Syrie.
Alors, une avant-garde qui a des moyens extrêmement forts pour la destruction de ces Bouddhas de Bamiyan et qui utilise la population locale.
Oui, qui éventuellement utilise la population locale, mais en général ce sont souvent des brigades spécialisées qui viennent détruire ces sites, qui font la différence entre ce qu'on peut prendre pour le revendre, des pièces d'antiquité qu'on vendra en Occident très cher. Par exemple, pour revenir à Bamiyan et aux autres sites bouddhistes d'Afghanistan, on a trouvé sur le marché, est apparu à Londres il y a quelques années, le seul médaillon à l'effigie d'Alexandre faite de son vivant, qui avait été pillé en Afghanistan. Donc vous voyez, quand ça présente un intérêt marchand, eh bien, les groupes islamistes s'en servent pour se financer. Évidemment, ce qui ne présente pas d'intérêt marchand, ils le détruisent.
Alors, vous écrivez également, Jean-Pierre Perrin, que ces actes violents et spectaculaires ne sont pas nouveaux. Dans le passé déjà, des musulmans fondamentalistes ont fait parler les pioches et les menaces.
Oui, l'exemple qui me vient naturellement à l'esprit, il y a eu, par exemple, le sultan Mahmoud de Ghazni, qui a complètement ravagé les Indes il y a des siècles, notamment qui a détruit l'un des plus beaux sites hindouistes des Indes de cette époque. Et ensuite, au cours de l'histoire, il y a eu sans arrêt des attaques fondamentalistes contre les sites antiques. Alors le musée de Kaboul, le très beau musée de Kaboul, l'un des plus beaux musées d'Asie, qui a été détruit par les talibans en 2001 et avait déjà été détruit en 1927 ou 1929 par un mouvement fondamentaliste de l'époque. Donc c'est déjà sa deuxième destruction. Alors les Bouddhas eux-mêmes avaient été attaqués au canon aussi des iconoclastes musulmans. Donc on voit effectivement qu'il a été menacé pendant toute son existence, ce patrimoine, mais là on arrive à un degré supérieur tout simplement parce qu'il dispose de moyens autrement supérieurs que leurs ancêtres de la même obédience, mais en plus que là, il y a une volonté systématique de destruction.
Alors, en Afghanistan, il y a une autre menace que les talibans, c'est celle des Chinois, curieusement, parce qu'ils construisent une ville sur un endroit où ils ne devraient pas.
Alors, c'est l'un des plus beaux sites d'Afghanistan, et sans doute d'Asie, c'est le site de Messaïna, qui est une ancienne mine de cuivre qui date en activité autour du 3e siècle jusqu'au 5, 6e siècle, 7e peut-être, et donc qui a donné naissance à une ville bouddhiste, parce que l'Afghanistan a un passé bouddhiste extraordinaire, qui se limite pas seulement au Bouddha de Bamiyan. Et donc là, cette mine de cuivre, qui est la seconde par son importance à ciel ouvert dans le monde, les Chinois ont besoin de cuivre et donc l'ont réhabilité, l'ont réinvesti, construisent une ville chinoise, veulent faire un chemin de fer. Et cette mine de cuivre antique avait donné naissance à une ville antique. Et donc le moderne ne va pas avec l'ancien. Donc le moderne doit gagner. Donc la mine de cuivre doit anéantir le site que les archéologues afghans, aidés par des Français, ont commencé à redécouvrir et qui est considérable. Et là, donc, évidemment, ce qu'il a suspendu pour l'instant les travaux de la mine chinoise, c'est simplement l'effondrement des cours du cuivre et puis la menace des talibans. On voit que pour une fois, les fondamentalistes viennent au secours de l'art antique, ce qui est assez extraordinaire.
Alors, ce cas où, en fait, ce ne sont pas des combattants ou la guerre qui vont menacer le patrimoine, mais plutôt, finalement, la modernité, c'est aussi la Libye. La Libye, il y a un formidable ensemble gréco-romain, la Libye qui a fourni le seul empereur romain originaire d'Afrique. Et là, ce qui menace surtout le patrimoine, c'est l'urbanisation finalement.
Oui, c'est l'urbanisation. Alors, le patrimoine libyen est absolument exceptionnel. Ce sont les plus belles villes gréco-romaines du bassin méditerranéen. Les plus belles. Moins conservées dans leur jus. Simplement, elles ont été magnifiquement restaurées pendant la colonisation italienne, qui par ailleurs a été épouvantable, cette colonisation. Mais enfin, elle a fait cette belle chose. Elle a restauré ses ruines. Et puis Kadhafi, après, les a laissés à l'abandon, ça ne l'intéressait pas, il a haïssé cette colonisation, sous bien des côtés haïssables, mais il n'a pas détruit les ruines. Et puis elles sont restées un peu dans leur jus, et ce qui fait, elles ont été très peu touchées, très peu abîmées, très peu fouillées, et donc c'est pour ça qu'elles sont aussi magnifiques. Alors, Sirène, par exemple, est une pure merveille.
Et l'État islamique n'étant pas extrêmement présent en Libye, du coup, cela peut préserver ces ruines.
Voilà, il a occupé un site pendant quelques jours, donc les destructions étaient assez limitées, il en était chassé très vite. Simplement, il y a d'autres groupes islamistes que l'État islamique justement qui opèrent en Libye, et donc il y a aussi une menace de la part de ces groupes, mais on ne sait pas trop l'évaluer.
Au Yémen, qu'est-ce qui menace le patrimoine qui est absolument fabuleux ?
Alors, le patrimoine est fabuleux parce que l'histoire du Yémen est fabuleuse. L'histoire du Yémen, elle est chrétienne, elle est parfois juive, elle combine tout un ensemble de religions, de traditions, et donc avec des villes extrêmement vieilles, le barrage de Marib, le célèbre mythique barrage, dit-on, de la reine de Saba. C'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, là, par exemple, l'aviation saoudienne, dans le cadre de la guerre civile inter-yéménite, l'aviation saoudienne prend ces sites archéologiques et les bombarde alors qu'ils ne représentent aucun objectif stratégique. La vieille ville de Sanaa tremble en permanence sous les bombardements de l'aviation saoudienne. Alors là, on voit qu'il y a une volonté, au-delà de détruire la rébellion Houthi, de détruire le passé aussi. On retrouve le même phénomène finalement que pour l'État islamique, la destruction du passé. Il faut abolir le passé yéménite, dont l'Arabie saoudite est extrêmement jalouse finalement. Elle a anéanti son propre passé avec le wahhabisme. Les églises chrétiennes qui existent ont été recouvertes de sable, les synagogues également, c'est comme si ce passé n'existait pas. Elle veut faire la même chose au Yémen, ne supporte pas qu'il y ait un modèle yéménite culturel. Et en plus, les Yéménites sont très très fiers, très très fiers de leur culture anté-islamique. Ils ont beau être de bons musulmans, ça ne les dérange pas d'avoir aussi un passé prestigieux. Et là, on voit simplement que l'Arabie saoudite, comme les groupes de l'État islamique, sont en accord, même s'ils se combattent, pour détruire ce patrimoine.
C'est l'Arabie du désert contre l'Arabie heureuse.
Exactement.
Alors, autre région que vous avez sillonnée, d'ailleurs dans ce livre, tous les pays dont vous parlez, vous y êtes allé d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, l'Irak est un pays qui est particulièrement visé par les combattants de l'État islamique aujourd'hui.
Oui, mais au même titre que la Syrie. Oui, parce que l'État islamique est vraiment né en Irak de l'invasion américaine, pour faire simple. Donc, les premières cibles ont été, évidemment, le patrimoine architectural et antique de l'Irak.
Notamment Mossoul, qui est sous la coupe de l'État islamique et qui doit être totalement pillé.
Alors, musée de Mossoul pillé, le tombeau de Jonas, le tombeau du patriarche, du prophète Jonas, qui est commun à la fois aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, a été réduit, semble-t-il, à un tas de cailloux. Là, ce qu'on n'a pas supporté, c'est que les trois religions se réfèrent au même prophète, et en même temps, le culte des saints étant considéré comme une hérésie par le fondamentalisme. Voilà les deux raisons pour lesquelles ce vieux tombeau a été anéanti.
Alors anéanti aussi Nimroud, et également des menaces contre la ville de Samarra, qui est une ville près de laquelle est né Abou Bakr al-Baghdadi.
Oui, c'est sa région natale.
Alors, quel est le problème pour celle-ci, pour
cette ville? Simplement, c'est un sanctuaire chiite, c'est un sanctuaire fondamental chez les chiites. Il est considéré comme l'un des grands lieux de pèlerinage avec Najaf, Karbala, Mesh. Et donc, il était important pour l'État islamique de s'attaquer. Alors, il y a eu des explosions, mais le site perdure tant bien que mal encore. Voilà.
Et la Syrie, on sait que donc Palmyre a été évidemment prise par l'État islamique. D'ailleurs, ils ont commencé par détruire la prison de sinistre mémoire. On ne sait pas pour quelle raison. Mais est-ce que ce qui a été perdu à Palmyre, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, peut être retrouvé? Et si oui, de quelle façon?
Vous savez, l'esprit des lieux, une fois que les lieux sont détruits, l'esprit est parti. On ne retrouvera pas l'esprit des Bouddhas de Bamiyan, on ne retrouvera pas l'esprit de Palmyre. Simplement, on peut voir ce que furent ces sites, grâce notamment au prodige du virtuel, de ce que fait par exemple la petite entreprise Iconem. Iconem ressuscite ces sites, alors on peut les voir vraiment revivre sous nos yeux, simplement sur son ordinateur. Alors ils utilisent toutes les méthodes les plus modernes, notamment les drones, utilisent beaucoup les drones, refont la ville comme elle était, manquera simplement l'esprit des lieux.
Mais on ne peut pas reconstituer ce qui est perdu.
Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable de ne pas laisser la cicatrice? L'histoire laisse des cicatrices partout. Hein. Bon, pour rappeler justement ce que furent les tragédies de l'histoire, je suis pas très favorable à ce qu'on reconstitue avec des pierres ce que l'homme a détruit.
Merci Jean-Pierre Perrin, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez été longtemps grand reporter à Libération. Et je renvoie à votre livre « Menaces sur la mémoire de l'humanité ». C'est publié aux éditions Webeck.
Je vous remercie beaucoup.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors cette semaine, la prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis fait évidemment la une de la plupart de vos journaux, à commencer par les journaux arabes, Alexandre.
Oui, et la plupart des journaux parlent d'un brouillard qui enveloppe la future politique étrangère américaine à l'égard du Proche-Orient. Le journal Al-Quds Al-Arabi, traduisait Jérusalem arabe, est préoccupé par l'avenir de la ville sainte et craint que Donald Trump, contrairement à ses prédécesseurs, ne mette à exécution sa promesse électorale de transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Des éditorialistes de la presse du Golfe cherchent à regarder le verre à moitié plein. Donald Trump a peut-être dit qu'il réviserait la protection américaine accordée aux pays du Golfe, mais il a surtout dit qu'il remettrait en question les accords de normalisation des relations entre les États-Unis et l'Iran. Des accords qui ont refroidi les relations entre Washington et le Golfe, pour qui le danger vient de la Perse chiite, cet ennemi ethnique et religieux. Et puis, il y a ceux qui voient d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, comme de nombreux journaux du Caire, qui estiment que les années Obama ont été très négatives pour la région et surtout pour le régime égyptien.
Michel, cette investiture fait également la une de la presse israélienne.
C'est bien sûr Donald Trump qui est la vedette de la presse israélienne de ce week-end. Le début de l'ère Trump, c'est le titre qui revient le plus souvent dans les journaux, avec aussi la liste complète de la nouvelle équipe de la Maison-Blanche. À retenir, Eric, en particulier dans le quotidien Mariv, ce titre, les responsables de la sécurité en Israël redoutent une escalade de la violence. Et un article signé Gideon Saar, ancien ministre de droite, c'est le moment, estime-t-il, de penser à des idées nouvelles. À la une de Yediot Aharonot, un article en anglais, intitulé « Good luck, Mr. President », histoire de souhaiter bonne chance à Trump. Et dans la suite de l'article, la traditionnelle bénédiction sacerdotale, « Que Dieu tourne sa face vers toi et qu'il t'apporte la paix ». Quant au quotidien libéral Haaretz, il se contente d'une photo du nouveau président en première page. Les articles sur Trump sont relégués en page d'intérieur, avec notamment ce titre sous la photo du nouveau président américain. On avance vers l'inconnu.
Autre sujet développé dans vos journaux, Michel, le débat sur les prises de position des députés arabes en Israël.
La démolition de maisons construites illégalement dans un village bédouin du sud du pays s'est très mal terminée cette semaine avec deux morts, un policier renversé par la jeep d'un habitant de Oum El Khiran et également l'automobiliste lui-même qui a été abattu par les policiers. Le ministre de la Sécurité intérieure demande d'ouvrir une enquête sur le comportement des députés arabes de la Knesset à la suite de cette affaire. Un député arabe a été mis à pied auparavant pour avoir passé des téléphones à un détenu palestinien dans une prison de haute sécurité. Alors c'est un sujet qui donne lieu à de nombreux débats. Et puis il faut aussi, Eric, mentionner l'article publié par Haaretz et signé par le professeur Zev Sternel. Seule la peur de sanctions contre Israël pourra freiner la droite israélienne.
Alexandre, le quotidien Al-Sharq Al-Awsat met en garde contre le danger de pollution au nord de l'Irak.
Oui, une pollution provoquée par l'incendie d'innombrables puits de pétrole par le groupe État islamique depuis le mois d'août. Des incendies qui provoquent une épaisse fumée noire visible depuis l'espace comme le montrent les clichés de la NASA. Résultat, les moutons sont noirs et les humains peinent à respirer. Des incendies que nul n'essaye d'éteindre du fait des combats et de l'insécurité dans la région. Mais le pire, selon Al-Sharq Al-Awsat, c'est que ces fumées toxiques risquent, en se condensant, d'empoisonner progressivement les eaux du Tigre, un fleuve vital pour les Irakiens du nord, mais aussi du sud du pays.
Et puis, dans la presse, Alexandre, cette affaire de l'ex-star du football égyptien, Mohamed Aboutrika, placé sur la liste terroriste.
Oui, alors rappelons qu'Aboutrika est le plus célèbre des footballeurs égyptiens du 21e siècle, un joueur qui a gagné pratiquement tout en Égypte et en Afrique et dont la popularité reste immense. Alors les journaux détaillent les raisons qui ont amené à l'inscription de la star sur la liste des terroristes. En deux mots, il a été sympathisant des frères musulmans qui ont été légalement décrétés organisation terroriste. Si des éditorialistes trouvent la décision justifiée, d'autres pensent le contraire. Ces derniers rappellent que le hashtag Aboutrika n'est pas un criminel a dominé Twitter en Égypte. Pour le journal Al-Maqal, la décision de placer Aboutrika sur la liste des terroristes est une bataille de popularité perdue par le régime localement, mais aussi internationalement.
Michel Paul, on parle toujours beaucoup des enquêtes pour corruption et abus de pouvoir du Premier ministre.
Et selon Haaretz, qui préfère titrer sur cette affaire à la une, le couple Netanyahou exigeait des cigares Cohiba et du champagne Dom Pérignon de la part d'un homme d'affaires et utilisait même un nom de code, des roses et des feuilles. Selon un sondage publié par Mariv, 57% des Israéliens pensent que les soupçons contre Netanyahou pour corruption sont justifiés. Ce sondage démontre également que la droite, dans tous les cas de figure, restera au pouvoir en Israël.
Et pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo des tunnels sur la route Jérusalem-Tel Aviv qui viennent d'être inaugurés ce week-end, raccourcissant considérablement la distance et surtout le temps de parcours entre les deux villes, et qui, selon un chroniqueur plein d'humour, pourrait faciliter le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
Humour noir, cela va sans dire. Merci Michel, merci Alexandre. François Porchon a réalisé cette nouvelle édition d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr, rubrique émission, ou encore sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.